Il est minuit 14 sur Europe 1 et vous êtes sur votre libre antenne. Nous accueillons Maud, vraiment. Maud au 3921. Pourquoi je vous ai appelé Maud, vraiment? Allez savoir, ma chère Maud. Bonsoir, Maud.
Bonsoir, Maud. Bonsoir, Olivier. Et
vous voyez, vous m'appelez Maud.
Vous voyez, je vous appelle Maud.
Comment allez-vous, Maud?
Oui, eh bien, écoutez, je vais relativement bien. Mon témoignage va paraître fade par rapport à la force des témoignages précédents. Je parle d'Adeline et de Fanny que j'ai trouvé très, très dures.
Oui, c'est. Mais vous savez, je le dis souvent, il ne faut pas comparer les témoignages les uns aux autres parce que c'est important de, lorsqu'on a envie de parler de. Voilà, du problème qu'on traverse, il a de grandes chances qu'il ne ressemble jamais à celui dont on vient de parler. Ou ce, vous voyez, donc, je vous écoute, Maud.
Alors, moi, j'ai un gros souci, non pas pour moi, mais pour l'état de santé de mon frère. J'ai un frère qui a 62 ans, qui vient de prendre sa retraite il y a 2 ans, et qui malheureusement souffre d'un problème. Il a une addiction à l'alcool.
Oui.
Donc, il est dans une dépression, ça fait des années et des années que ça dure. Et il est suivi, semble-t-il, correctement. Il habite la région de Nantes.
Oui.
Et il a été diagnostiqué bipolaire. Mais moi, j'ai un doute, parce que bipolaire, c'est vrai, lorsqu'il s'est alcoolisé, bien sûr, il y a des moments d'euphorie, et des moments, et le lendemain, il est très, très malheureux. Mais est-ce que l'on peut diagnostiquer quelqu'un de bipolaire? Enfin, ça me paraît.
C'est quelque chose qu'il faut distinguer, hein, en fait. Si votre frère souffre de bipolarité et qu'il est alcoolisé en permanence, hein, ce qui semble être le cas.
Non, pas tout le temps.
D'accord. Donc, je pense que le diagnostic qui a été posé sur lui, eh bien, il a été posé au moment où peut-être il n'était pas sous l'effet d'alcool et il peut souffrir d'une bipolarité qui l'entraîne dans cette addiction. Mais vous avez raison de dire que lorsqu'il boit, il est euphorique et que le lendemain, bien évidemment, il est mal. Ça, c'est pareil pour tout le monde. Quel âge a-t-il ?
Il a 62 ans.
62 ans, et ça fait longtemps que ça dure ?
Eh bien, écoutez, il était dans un métier, puisqu'il était chauffeur d'une personnalité dans une administration avec des horaires très compliqués, la nuit, le jour, et il s'est laissé entraîner, plus des soucis personnels.
Oui.
Des enfants, 2 enfants adorables, mais qui n'ont pas voulu faire d'études,
oui.
Et qui maintenant, bien sûr, ont de très petits jobs, des petits revenus,
oui.
Et ils ont une culpabilité terrible, ils voudraient sauver le monde entier.
Oui.
Ensuite, mes parents l'ont complètement accaparé, et c'était le repas chez mes parents tous les dimanches. Et lorsque mon père est décédé il y a 15 ans maintenant, ma mère, qui a toujours été une très 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 grande dépressive, il est resté auprès d'elle. Après, on l'a mis dans un EHPAD et il ne s'en est jamais remis. Enfin, c'est quelqu'un qui est écorché vif. Et
il est fragile.
Il est d'une fragilité. Et bon, pour adoucir toutes ses souffrances, eh bien, il y a l'alcool. Voilà. Alors, il a déjà fait 2 cures de désintoxication,
oui.
Ce qui n'a rien donné, parce que lui, il aimerait maîtriser sa consommation. Mais il ne le peut pas. Quand il dépasse 3 ou 4 bières, comme il me raconte, après, il ne se contrôle plus. Et c'est quelque chose de terrible. Et ma belle-sœur n'en peut plus. Ça fait près de 40 ans quand même qu'ils sont mariés. Et
elle est courageuse, votre belle-sœur, d'être restée. Parce que c'est un véritable problème, hein, un véritable. Vivre avec quelqu'un qui souffre de cette addiction-là, en plus, c'est Alors, toutes les addictions sont pénibles.
Oui,
hein,
toutes les addictions sont terribles. Mais
l'alcool, c'est, ça rend souvent violent, ça rend mythomane,
oui, là,
ça rend...
Oui. Là, il est violent envers lui-même. Il a eu un accident de moto très, très grave. Là,
il n'y a pas longtemps, là ?
Il y a 4 ou 5 ans.
D'accord.
Mais là, il n'y a pas encore de violence physique vis-à-vis de son épouse. Mais il tape dans les murs. Enfin, il peut faire... voilà. Alors... ailleurs, il est contre les médicaments. Il voit un psy, ça ne lui convient pas du tout.
Oui.
Parce que lorsqu'il sort, il y a des gens finalement, tout ce qui est thérapie, pour lui, c'est une angoisse que d'aller voir le psy. Et il en est malade à l'avance. Et il me dit, je ne sais pas quoi lui dire. Je ne sais pas de quoi parler. Et quand il sort, il est tellement angoissé qu'il va au bar d'à côté pour prendre 2 ou 3 bières pour se calmer.
C'est pénible de vivre pour vous une telle situation. Je pense que c'est encore plus pénible pour votre belle-sœur et pour les 2 enfants, aussi grands soient-ils. Hein, mais est-ce qu'il est tout de même, il vous écoute un peu les uns les autres? Est-ce qu'il est décidé à se soigner?
Alors là, j'ai réussi quand même, on a tellement parlé, et puis j'ai quand même réussi à ce que son épouse aille aussi rencontrer le psy qui le suit, et il a accepté une hospitalisation dans les semaines qui viennent, dans une clinique. Mais ce sera pour après, parce qu'il a perdu complètement... pour lui, il est moins que rien.
Il a une dépréciation de lui-même, sans doute.
Mais ouais. Total. Ouais. Pour lui, il a tout raté. Il se trouve nul sur toute la ligne. Enfin, c'est un garçon loin d'être idiot. Il est d'une générosité. Il est très, très artiste de ses mains, il peut faire beaucoup de choses, mais il est, voilà.
Oui, c'est malheureusement compliqué hein, pour vous, parce que vous avez une situation de grande sœur, puisque c'est le petit dernier, hein, c'est ça ?
C'est le petit dernier, oui.
C'est compliqué parce que, voilà, c'est un adulte, hein. il a déjà donc 62 ans. La seule influence que vous pouvez avoir sur lui, c'est bien évidemment de le déculpabiliser, parce que la manière dont vous en parlez, je pense que votre frère est un ultra sensible et qu'il ressent tout et sa volonté de vouloir sauver le monde entier avant de penser à la chose primordiale. C'est de se sauver lui-même. Bon, parce que quand on a envie de sauver le monde entier, il vaut mieux être en forme. Hein, et souvent, hein, ces personnes-là s'oublient pour les autres et ne pensent pas que le premier à sauver, c'est lui. Donc,
Il faudrait qu'il prenne conscience de ça.
C'est vraiment le rôle de celles et ceux qui l'entourent. De ne pas, bien évidemment, le culpabiliser, mais je pense, en vous écoutant, que ça n'est pas du tout le cas, et de vraiment l'encourager et en l'aimant, en l'entourant, en lui prouvant votre amour, parce que c'est très important hein, d'être entouré d'amour et de se sentir aimé lorsque on entame un chemin comme celui de la décroche d'une addiction. Parce que qu'on ait 20 ans ou qu'on ait 60 ans, on ne peut pas s'en sortir seul, de toute façon. Je le dis et redis sur cette antenne à chaque fois que nous parlons d'une addiction. Toutes celles et ceux qui pensent pouvoir s'en sortir seul, c'est impossible. Il faut être accompagné, bien évidemment, d'un médecin ou d'une communauté. Hein. On parle des alcooliques anonymes, des narcotiques anonymes.
Oui.
qui ont...
Oui, les alcooliques anonymes.
Mais oui, ça serait génial pour lui d'aller là-bas.
Ah oui, j'avais contacté un Jean-Pierre, s'il nous écoute, je le salue vraiment, il est absolument extraordinaire. Il anime des séances à l'hôpital Saint-Antoine. Et vraiment, c'est un garçon qui était au fond et qui a réussi à rebondir. Et il a fait des études de psychologue, il anime maintenant ces réunions d'alcooliques anonymes. Enfin, il est vraiment fantastique.
Mais vous savez, la force de la communauté, la force du groupe, lorsque on se décide à aller mettre ses fesses dans une salle, comme on dit chez les narcotiques anonymes ou les alcooliques anonymes, c'est simplement assis-toi dans cette salle et puis écoute, déjà. Commence à écouter. Mais déjà, le fait d'accepter d'aller se poser dans une salle et de participer à une réunion, même si on n'a pas envie de parler, c'est toujours mieux de parler. Parce que, mais bon, personne ne vous forcera, ne le forcera à parler. Mais c'est très important parce que l'amour dont je vous parle, on le ressent vraiment dans ces salles.
Ah oui, moi je l'ai ressenti parce qu'il m'avait même proposé d'assister à une de ses séances.
Oui, oui.
J'y étais allée, j'avais été bouleversée par cet amour, par tous ces témoignages. Et j'avais trouvé ça d'une force absolument incroyable.
Oui, oui, oui. Et ça marche, ça marche.
Il dit,
ça marche.
Quel dommage qu'il n'accepte pas.
Il ne veut pas y aller.
Non.
Pourquoi ? Quelle raison vous donne-t-il ?
Eh bien, il me dit que non, lui, il veut s'en sortir seul.
Il n'y arrivera pas.
Il a envie de boire. Alors, il y a aussi, dans certaines générations, notamment la sienne, peut-être que c'est dû aussi à cette région, où ne pas boire d'alcool, c'est dévalorisant pour un homme.
Dans la région de Nantes ?
Oui.
Pourquoi est-ce dévalorisant, à votre avis ?
Eh bien, un homme prendre un jus de fruits ou un café, pour lui, c'est quelque chose. Il faut prendre un alcool, une bière, un verre.
Vous pensez ça ? Vous pensez ça, vraiment ?
Ben, écoutez,
Parce que...
Je pense, dans une certaine population, j'ai l'impression que c'est ça. Heureusement, la génération actuelle, au contraire, ça devient ringard de boire de l'alcool.
Mmh. Mais là, il en va de sa santé, en fait. Et je sais que les alcooliques anonymes sont à Nantes aussi, et que les gens qui vous jugent parce que vous buvez un jus d'orange ou un café ou un thé à la place d'un apéro, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à partager avec ces gens-là. Vous voyez ?
Donc,
je vous invite quand même à lui conseiller d'écouter le podcast de notre échange qui sera dès demain sur le site d'Europe 1. Vous savez que le lendemain, le service de Facebook, en tout cas tous nos collaborateurs qui s'occupent des podcasts d'Europe 1, mettent les témoignages, et chaque témoignage de la Libre Antenne, il y a toute l'émission qui est en podcast, mais il y a aussi chaque témoignage, et le vôtre sera facilement trouvable. Et je pense que vous devriez lui demander d'écouter l'échange que nous avons eu ce soir, parce que c'est un homme de plus de 50 ans qui évoque le fait qu'il ne boit pas d'alcool et que personne ne le juge pour ça. Moi, je sais que mes amis, ceux qui boivent de l'alcool comme ceux qui ne boivent pas d'alcool, donc que faire de ce qu'on boit, en fait. C'est ridicule, en fait, de porter attention à ça, même dans une région comme Nantes. Bien évidemment, à Nantes, il y a du très bon vin blanc, me semble-t-il. Il y a tout un tas de choses. Mais ça, c'est secondaire, finalement. On peut très bien...
Oui, c'est complètement secondaire, mais ça fait partie des traditions.
Oui. Mais,
les gens, enfin, encore une fois, d'une certaine... certains milieux, lorsqu'ils se retrouvent, c'est autour d'une bière, c'est autour de...
Oui.
C'est rarement autour d'un jus de fruits ou autour d'un thé.
Mais malheureusement, il a sans doute beaucoup d'amis qui peuvent, boire un verre ou deux, boire une bière, un verre de vin blanc ou un apéro quelconque, un whisky. Mais lui ne peut pas. Il va falloir qu'il comprenne que pour se sauver, il va devoir faire une croix définitive sur l'alcool.
Et oui,
c'est le pas qu'il doit franchir. Et ce pas-là, il ne peut pas le franchir seul. Est-ce que lorsque vous évoquez l'alcool avec lui, il vous dit qu'il contrôle, est-ce qu'il se reconnaît comme alcoolique ou pas?
Oh, il a la chance d'avoir le foie encore en très bon état, me dit-il. Est-ce qu'il est vraiment alcoolique? Il peut rester une semaine, deux semaines sans boire. Quand il se lève, il n'est pas obligé de boire. On m'a toujours dit qu'un véritable alcoolique, dès qu'il se levait, c'était son obsession.
Mais ça, c'est une image, Maud.
C'est une image.
Mais oui, quelqu'un qui peut rester une semaine sans boire, mais qui, pendant tout un week-end, va boire et se mettre dans un état pas possible, quelqu'un qui ne boit qu'une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, si vous voulez, il n'est pas alcoolique. Je sais pas. Il y a pas de degré dans l'alcoolisme en fait. Il y a bien évidemment des gens qui sont accros et qui peuvent boire comme vous dites au lever. Mais les gens, vous voyez, qui tous les soirs quand ils rentrent chez eux se font un petit whisky parce que ça détend ou deux souffrent d'un alcoolisme chronique en fait.
C'est une dépendance.
Voilà. Et puis un ou deux whisky tous les soirs. Je peux vous dire que ça fait des dégâts, mais considérables. Boire du vin à table le soir ou le midi fait des dégâts considérables. L'alcool et avec le tabac, ce sont les premières causes de mortalité. Hein. Boire une fois le week-end, que le week-end, de toute façon, si vous m'appelez ce soir, c'est que votre frère a un problème d'alcool. C'est ce pourquoi vous m'avez appelé.
Bien sûr.
Même s'il peut rester une semaine sans boire, visiblement, ça vous pose un problème. Ça pose un problème à sa femme et ça pose un problème à ceux qui l'aiment.
Ah, mais ça pose un problème à toute la famille. La famille est dévastée.
Ouais.
Est-ce que
lorsque vous évoquez cela avec lui, il se reconnaît comme alcoolique ou non?
Oui, quand même.
D'accord.
Quand même,
ouais. C'est important. C'est important qu'il le reconnaisse. Et le chemin à parcourir avec lui, c'est de vraiment le mener à cette idée qu'on ne s'en sort pas seul. C'est beaucoup plus confortable en plus de demander de l'aide et d'obtenir cette aide. C'est tellement plus confortable d'être...
Et de faire confiance.
Confiance, exactement.
Surtout ça.
Alors entourez-le, Maud. Entourez-le du mieux que vous pouvez. Il faut le déculpabiliser là-dessus parce que l'alcool qu'il consomme répond à une blessure, à un manque qu'il a.
À des frustrations.
On a le droit de boire pour oublier. Après, bien évidemment, il faut se rendre à l'évidence qu'il faut que ça s'arrête. Autrement, ben, il aura un autre accident. Autrement, il tombera malade.
Moi, je suis dans une inquiétude permanente. Je me dis, est-ce qu'il va... Il parle de suicide, il parle de ci, il parle de là.
Oui. Il doit avoir une image de lui-même très dégradée.
Je me dis, je suis un pauvre alcoolo. Voilà, il se traite.
Combien de frères et sœurs êtes-vous?
Eh bien, nous sommes une fratrie de trois.
D'accord. Et vous vous entendez bien, tous les trois?
Ah oui, très bien.
Bon, donc, il faut prendre votre courage à deux mains. C'est une sœur ou un frère, le troisième?
Mon frère, c'est le dernier.
Oui.
Et au milieu, c'est une sœur.
D'accord. Eh bien, les deux sœurs, il faut que peut-être vous vous armiez de courage avec votre belle-sœur et que vous lui parliez très gentiment, très doucement. Et que vous lui expliquiez que c'est possible qu'il s'en sorte, c'est possible qu'il se soigne, c'est possible qu'il améliore sa vie, parce que ses enfants l'aiment, parce que vous l'aimez et que vous vous inquiétez pour lui, mais que c'est possible, c'est possible. C'est dans ses mains, Maud, c'est dans ses mains.
C'est lui qui le tient.
Il ne tient qu'à lui de faire une croix là-dessus, de se sortir de cette addiction et d'aller mieux. C'est dans ses mains. Voilà, ma chère Maud. Mais je vous en prie, je vous en prie.
Merci beaucoup, Olivier.
Et courage, il faut que vous armer de courage entre femmes là, pour lui parler et pour l'entourer d'amour et l'accompagner. D'accord ?
On va faire.
Très bien. Passez une bonne soirée. Au revoir.